Bonjour à toutes et à tous, l'ABC de la médiation familiale, c'est sur CFM Rodez, toutes les deux semaines, une émission en partenariat avec l'ADAVEM de l'Aveyron. L'ADAVEM, ça veut dire Association Départementale d'Aide aux Victimes et de Médiation. On a le plaisir de retrouver pour ce nouveau numéro une médiatrice familiale diplômée d'État, Lucia Vintila. Bonjour Lucia.
Bonjour David.
Tout va bien?
Ça va, impeccable.
Bon, avec toi Lucia dans les studios aujourd'hui, pas Justine, une invité.
Exactement, comme on a lancé au début d'année, on essaye d'avoir chaque fois un nouveau invité. Aujourd'hui, à côté de nous, c'est la bâtonnière de Rodez. Est-ce que c'est bien votre titulature comme ça? C'est Madame Laurence Guédon. Bonjour.
Oui, bonjour David, bonjour Lucia, merci de m'inviter.
Bonjour Laurence. Bon, bâtonnière, ça évoque rapidement quelque chose, mais ce qui va nous évoquer tout de suite ce que vous faites de beau dans la vie, notamment, hein, Madame Guédon, c'est que vous êtes avocate.
Oui, je suis avocate depuis 1991. J'ai prêté serment en 1991 et je suis au barreau de l'Aveyron depuis janvier 1994.
Bâtonnière, ça veut dire quoi, bâtonnière? On entend ces mots-là parfois quand on regarde la télé, les avocats, contents, pas contents, et bon, on voit un bâtonnier ou une bâtonnière, mais on n'est pas forcément, on ne sait pas forcément de quoi il s'agit.
Alors, le bâtonnier, je préfère désignation
non.
Le bâtonnier.
Ah, au masculin vous...
Au masculin.
Ah bon, c'est...
Pour moi, ça désigne la fonction. Voilà. Oui. Donc, je suis Madame le bâtonnier. Mais bon, chacun le souhaite comme, le dit comme il veut. Alors, le bâtonnier a des fonctions de représentation du barreau à l'extérieur du département, puisque le barreau est départemental ici. Il représente donc, c'est la voix du barreau à l'extérieur. Et le bâtonnier a également des fonctions à l'intérieur, des fonctions ordinales à l'intérieur du barreau. Il gère des relations entre les avocats et les clients, s'il y a des problèmes,
ouais.
Entre les avocats et les magistrats. Et également, il réunit un conseil de l'ordre. Moi, je le réunis personnellement tous les mois. Le conseil de l'ordre est une sorte de conseil des ministres ou bien de conseil municipal, si on prend l'image du bâtonnier maire d'un village, qui est le barreau, les conseillers municipaux, qui sont les membres du conseil de l'ordre. Et chaque conseiller, chaque membre du conseil de l'ordre a des tâches particulières, des missions particulières qui lui sont assignées en début de mandat.
C'est-à-dire que vous êtes un peu la chef des avocats de l'Aveyron?
On va dire ça. pendant 2 ans seulement. Ce n'est pas du tout une mission à vie. Mmh. C'est un titre qu'on a à vie. C'est-à-dire qu'on nous appelle Monsieur le bâtonnier ou Madame le bâtonnier, Madame la bâtonnière, selon ce qu'on préfère, à vie. Mais la fonction, la mission dure 2 ans.
Alors je dis chef, mais chef choisi par ses...
Chef élu.
Ah voilà, chef élu.
C'est démocratique.
D'accord, élu par les autres avocats du barreau de l'Aveyron. Tiens, une question, il y a combien d'avocats en Aveyron?
77.
77, d'accord. C'est des chiffres qui sont... stable,
Au 1er janvier, non, c'est en croissance, pas exponentielle, mais presque, puisqu'on a... Je pense qu'on a accueilli une bonne quinzaine de nouveaux arrivants dans... En 10 ans. Donc,
il n'y a pas plus d'habitants.
Non, mais il y a toujours du travail, malheureusement, puisqu'on travaille avec les difficultés des gens.
Oui.
On essaye de les résoudre au mieux. Voilà.
Tiens, toujours question, excuse-moi, après on va rentrer dans nos sujets, évidemment, la médiation familiale, parce que c'est quelque chose aussi que vous connaissez très très bien, Laurence Guédon. Bâtonnière, bon, vous avez un bâton ou pas?
Oui, en fait, j'ai reçu un bâton un peu personnalisé, donc je m'étendrai pas, mais effectivement, il y a un passage de bâton. C'est un relais, en fait. Mm-hmm. Vous avez dans le relais, les relais en athlétisme, le passage du bâton. Eh ben, nous, c'est pareil.
Alors, particularité, Laurence Guédon, enfin, particularité, en tout cas, à mes yeux. Laurence, vous êtes avocate, bien sûr, on vient de le dire, mais vous êtes aussi... médiatrice familiale, diplômée d'État, comme Lucia, vous êtes collègue.
Collègue, oui, j'ai le diplôme, je suis très sensibilisée à la question de la médiation et plus particulièrement de la médiation familiale étant diplômée. C'est un diplôme d'État, comme vous l'avez rappelé, David. Et également, par contre, je n'exerce pas actuellement, puisque l'importance de la fonction est d'exercer et de s'exercer en tant que médiateur. Hein. C'est en médiant qu'on devient médiateur.
Alors, ce diplôme, vous l'avez passé en plus tout récemment, là, il y a quelques temps seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, quand on est avocat, on a du travail, on a des choses à faire, c'est déjà un peu compliqué parfois. Pourquoi on se dit, tiens, je vais passer un diplôme de médiatrice familiale, quoi?
Alors, la médiation familiale, déjà, j'étais sensibilisée parce que j'avais suivi une formation en médiation générale, je crois que c'était en 2016, avec beaucoup d'autres membres du barreau. D'ailleurs, on a la chance ici d'avoir un barreau très, très perméable à l'idée de la médiation. Quand je dis médiation générale, c'est que la médiation ne peut être autre que familiale, hein. On peut aborder la médiation dans d'autres domaines, avec d'autres types de conflits. Et donc, on avait sollicité l'intervention, un intervenant extérieur qui était venu nous sensibiliser et nous apprendre la technique de la médiation pendant quelques séances. Par la suite, donc, c'était à l'occasion de l'année du confinement, oui, qui nous a vu, enfin, qui a vu nos pratiques se déliter, mais on a assisté à quelques trous d'air.
En fait. Oui, comme tout le monde, oui.
Tout le monde, ouais. Je pense, a vécu cette période à sa façon. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tenter autre chose en même temps. Donc moi, j'aime bien le « en même temps ». Mmh. Et voilà, j'ai commencé à suivre cette formation auprès d'un institut qui est réputé et qui m'a permis de monter à Paris, puisque j'ai fait la formation à Paris, une semaine par mois pendant un an et demi. Hein. Il y a 600 heures de cours, il y a 5 heures de stage, donc que j'ai fait d'ailleurs à la DAVEM, ici donc, et on doit rédiger un mémoire. On doit faire une action de com. Donc,
ah ouais.
Et j'oublie une autre épreuve. Et dans le cadre de cette formation des 600 heures, on a de la psychologie, du droit, de la médiation bien évidemment, et de la sociologie.
Mais pourquoi vous avez choisi cette formation-là? Je sais pas, vous auriez pu dire, parce que bon, vous auriez pu faire, je sais pas, moi, de la broderie, je dis n'importe quoi, s'occuper des animaux.
Fais aussi.
Ah bah, bon, d'accord, bravo. Bon, là, vous êtes avocate, médiation familiale, c'est pas la même chose, on va en parler dans cette émission, évidemment, mais on peut éventuellement imaginer quelques liens entre les deux métiers, les deux fonctions.
Il y a des liens, voilà. Il y a des liens indéniables.
Alors pourquoi vous avez eu besoin de formaliser tout ça?
Il y a des liens indéniables entre la médiation et l'avocature. Des liens, hein, je dis pas que c'est superposable entièrement, hein, mais il y a des liens. Alors, très personnellement, en dehors de pratiquer la médiation, je pense que ça a beaucoup, beaucoup amélioré mon écoute.
Ouais.
En tant que médiateur, on doit évidemment rester neutre, mais développer une écoute intense, particulière, ce qu'on appelle l'écoute active. Hein. Et je me surprends à adopter cette posture vis-à-vis de mes clients.
D'accord.
Hein, voilà.
Donc, bah, faites pas cette tête-là, c'est bien, non?
Non, mais alors si, parce que ça prend du temps.
Ah.
Là, on a un facteur temps,
ouais,
qu'on n'a pas. Alors, on n'a pas de temps en tant qu'avocat,
mm-hmm, hein,
ou alors on a un temps très très restreint. Et la médiation familiale m'a permis d'avoir du temps et de prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose dont on manque beaucoup, beaucoup, beaucoup en tant qu'avocat.
Oh bah oui, non.
Ce sont des métiers qui sont différents, mais quand même sont complémentaires. Parce qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup du rôle des avocats en médiation. C'était ça mon idée d'inviter Laurence ici, en sachant que c'est avocat, mais en plus de ça, c'est médiateur. Donc, tu es bien posé pour parler de les différences, mais aussi de tout ce que ça ressemble entre ces deux métiers et comment on peut collaborer, parce qu'on n'est pas un ami, on peut être en complémentarité et s'aider entre nous.
Alors la place de l'avocat, vous voyez, en médiation familiale, première chose, quand on est avocat d'une part, et puis qu'on fasse parfois ou à côté, il y a des médiateurs familiaux, diplômés d'État notamment, on s'entend bien entre vos deux corporations, je suis pas sûr, hein, on se bouffe pas un peu sur le dos les uns les autres?
Alors, certains de mes confrères ont vu arriver les médiateurs, effectivement, comme des sortes de concurrents qui allaient trouver des solutions à des dossiers pour lesquels sur lesquels ils travaillent depuis longtemps. Mais, enfin, moi, je le vois pas du tout comme ça, évidemment. Mais c'est vrai que de moins en moins de mes confrères considèrent le médiateur comme un concurrent.
Mais alors, quand ils considèrent comme un concurrent, c'est juste, excusez-moi, d'un point de vue un peu formel, tu me prends du client, de l'honoraire, quoi, grosso modo, ou il y a autre chose au-delà de ça?
Non, mais ça peut être ça.
Ouais, ça peut être ça. Ouais,
ça
ouais.
peut être ça. Ouais. Oui, ça peut être ça. Et puis aussi, mais qu'est-ce qu'ils vont leur mettre dans la tête ouais. Moi, j'ai fait tout ce travail dans l'intérêt de mon client. Attention, hein, nous, on travaille pour un client. On travaille pas pour les deux. Hein. Alors que le médiateur, lui, il a deux ou plusieurs personnes, plus que deux, en face. Et il travaille pour tout le monde. Hein. Quand on est médiateur, on dit je suis non pas impartial, mais multipartial. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est là pour tous. Hein, alors que l'avocat, lui, c'est son client et pas l'autre. Hein. Surtout pas. Surtout pas.
Et oui.
Voilà. Et c'est là qu'effectivement réside une énorme différence entre nos deux métiers.
Après, en tout cas, au niveau national, on n'est pas très nombreuses par rapport aux avocats parce que c'est un métier qui est récent. Elle est depuis même pas 30 ans en France. Les avocats, si j'ai bien les chiffres en tête, sont autour de 60 000.
70 000.
Voilà. Et nous, en association conventionnée, on n'est même pas 1 000. Donc 800 quelque chose. Et tout en exercice avec les libéraux, je ne sais pas si on est 2 000. Donc on n'a aucune chance contre les avocats. L'idée, c'est de collaborer, pas de se battre, d'ouvrir une chambre de guerre entre ces deux métiers.
De toute façon, les médiateurs sont trop rares.
Tiens, question, parce que dans cette émission, l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez, on est ensemble avec Lucia, des invités, Justine, des médiateurs depuis un an et demi, de nombreuses émissions autour de la médiation familiale. Et j'ai rarement, vous m'avez parlé de la place de l'avocat. Alors l'avocat, moi j'en ai quasiment jamais entendu parler, moi, dans la médiation familiale. Donc il y a une place, ou pas ?
Il y a une place, mais ça dépend et c'est rare en général. On peut avoir dans l'espace de médiation invité les avocats avec la condition que les deux parties, donc les deux parents éventuellement acceptent, que les avocats acceptent et que le médiateur accepte. Mais je te laisse Laurence de expliquer un peu plus en détail quelle est la place. Parce qu'en certains cas, l'avocat, il peut parler, si, comme je disais avant, le médiateur et les personnes sont d'accord, mais en certains cas, il assiste seulement. Et je me souviens, c'était il y a presque 2 ans quand j'ai commencé à pratiquer cette métier. C'était parmi mes premières médiations. C'était en co-médiation avec mon ancien tuteur de stage, en effet. Et on a eu les avocats invités dans l'espace de médiation. Ben, c'était un peu difficile pour un des avocats parce qu'il avait l'habitude de parler, de représenter son client, de parler en son nom. Et il n'a pas compris qu'en effet, en médiation, ben, toi, tu regardes seulement, c'était ennuyant pour lui. On était obligé de remettre le cadre pour l'expliquer que le client peut se défendre tout seul, qu'on est ici pour bien gérer le cadre et pour donner la parole de mode équitable à tous les deux parties. Et pour la prochaine séance, les avocats, ils ont dit, bon, on a vu, on vous fait confiance, c'est pas notre rôle d'être ici, c'est pas un espace qui ne convient. On a continué la médiation avec les avocats. Mais je te laisse de développer un petit peu tout ça.
Oui, ben pour reprendre l'exemple de Lucia, là, en fait, ce qui est important, c'est le cadre de la médiation. Mmh. Hein, et que le médiateur pose le cadre. C'est lui d'abord qui garant du cadre. Mmh. Hein. Mmh. Faudra peut-être dire un petit peu en quoi consiste le cadre, mais bon, c'est important. Alors, là, on est dans le cadre justement, de médier ou de personnes qui ont souhaité, qui se sont portées volontaires pour entrer en médiation, mais peut-être sous la condition d'avoir leur avocat à côté d'eux. Hein. Je ne sais pas hein, si c'est là qu'elle dit ça. Mais c'était pour l'entrée en médiation, peut-être. Mmh. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu par la suite, c'est que les médiateurs ont très bien fait leur travail, savoir qu'ils ont expliqué en quoi consistait la médiation, ce que les avocats ont bien compris et intégré. Et du coup, ils ont compris que pour que la parole entre les personnes, les médiés, hein, ce que moi j'appelle les médiés, pour que la parole circule, hein, puisque c'est ça, hein, le but de la médiation, c'est rétablir la communication hein, qui a été rompue et qui a généré un conflit. Donc pour que la parole circule, ben, il ne faut pas quelqu'un qui prenne la parole.
Oui.
Hein, qui se substitue aux médias pour dire et pour plaider en quelque sorte. Uh-huh. Hein. On est bien d'accord.
Ça doit être dur pour un avocat de la fermer.
C'est très dur. C'est épouvantable. Non, c'est très dur pour certains confrères, beaucoup plus que pour d'autres.
Oui.
Et puis, non, enfin, personnellement, quand je connaissant la médiation, je préfère me retirer. Je préfère me si un client souhaitait ma présence en médiation, je pourrais venir en demandant la permission. Il faudrait que les autres l'acceptent, que tous les acteurs,
tous les intervenants
l'acceptent, mais je serais en retrait, et je me la bouclerai. Voilà, je serai là pour rassurer mon client, mais point final.
Ça arrive souvent, ça
Ça arrive pas souvent. Non, ça doit pas arriver très très souvent, hein, je pense.
Parce que c'est quoi ça peut être quoi les situations? On rappelle que dans une médiation familiale, il faut que tous les intervenants soient volontaires déjà. Donc personne n'est poussé là, mis dans cette salle, tout le monde est d'accord, c'est une démarche positive. Donc faire intervenir un avocat quand on est dans une démarche positive, on se dit, ah bah non, la démarche n'est peut-être pas si positive que ça quand même. Parce que le mec, il vient ou la dame, elle vient quand même avec son avocat, quoi.
Ouais, mais tous les avocats sont pas dressés au mordant quand même, hein.
Ah.
On a quand même donc certains plus que d'autres une fibre justement amiable, et d'autant plus en famille, en droit de la famille et en matière familiale, qui est une matière extrêmement intime.
Oui.
Si on commence à mettre de l'huile sur le feu là-dessus, c'est juste contre-productif, tout simplement.
Je veux seulement ajouter que dans une médiation ordonnée ou dans une injonction, le médiateur familial ne peut pas s'opposer à l'avocat. Donc, si les personnes souhaitent avoir les avocats à côté parce qu'ils se sentent plus en sécurité, etc., donc on ne peut pas s'opposer. Par contre, c'est une petite différence dans le conventionnel, donc dans une médiation où les personnes viennent de leur propre volonté. Les personnes et le médiateur peuvent s'opposer à la présence d'avocats. Après, si tout le monde s'est d'accord, l'avocat peut assister les personnes. Et on a discuté un petit peu avant que la médiation commence, quelle est la différence entre assister et représenter. Est-ce que c'est une différence et, s'il te plaît, si tu veux dire plus.
Pour un avocat, assister son client, ça suppose, après suppose que le client est à ses côtés.
Assiste.
Voilà. Oui. Je l'assiste, c'est-à-dire que c'est lui la personne.
Il est là,
voilà. Ouais. Je l'assiste, je viens en soutien, je prendrai la parole pour le client si besoin est, ou bien si voilà, mais je l'assiste. C'est une présence physique, donc à mes côtés, j'assiste. Représenter, ça veut dire que le client n'est pas à côté. Il n'est pas physiquement dans la pièce.
On parlait pour lui, quoi.
On parle pour lui, voilà. Mais de toute façon, avocat, ça veut dire advocate, ça veut dire parler pour. Advocare, parler pour, voilà. Parler à la place de. La définition est dans le mot,
L'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez, c'est cette semaine la place des avocats en médiation. Notre invité Laurence Guédon est bâtonnier du barreau de Rodez. On dit barreau de Rodez ou barreau de l'Aveyron ?
Barreau de l'Aveyron.
Barreau de l'Aveyron.
C'est un barreau départemental.
Merci Laurence. Laurence qui est aussi, vous l'avez compris, diplômée d'État, médiatrice familiale, tout comme Lucia Vintila qui exerce évidemment à la DAVEM. Pause musicale, Lucia, dans cette émission. T'as choisi de partager quoi avec nous ?
Aujourd'hui une chanson italienne, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien écouter Ricchi e Poveri, Sara perché ti amo.
Oh là, ça ne nous rajeunit pas non plus. Ça. Merci Lucia.
Avec plaisir David.
Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
E vola, vola, si sa,
sempre più in alto.
Volando
CFM Rhodes, l'ABC de la médiation familiale. Cette semaine, c'est la place des avocats en médiation familiale. Notre sujet avec Lucia Vintila, médiatrice familiale diplômée d'État à la DAVEM de l'Aveyron, et son invitée Laurence Guédon, qui est avocate bâtonnier du barreau de l'Aveyron et elle-même aussi médiatrice familiale diplômée d'État. Laurence, vous nous avez raconté ça dans la première partie, il y a quelques années, là, au moment du confinement. Vous avez eu envie de passer ce diplôme et de vous prêter à cette formation. La place de l'avocat donc dans la médiation, on l'a vu, il y en a une déjà de place, éventuellement, pas nécessairement, mais éventuellement, nécessairement d'ailleurs ou pas, pour vous Laurence?
Nécessairement non. La nécessité tient juste au fait que pour l'entrée dans la médiation, le client peut exiger de... Alors le client, là je me mets du côté de l'avocat hein, ouais, c'est plus du tout la sémantique médiation. Hein. Mm-hmm. Donc le client peut dire, moi je ne viendrai pas en médiation sans mon avocat, pourquoi pas, on essaye. Et à ce moment-là, si le médier du coup prend confiance, on continue tout à fait sans les avocats, hein. Il n'y a pas de difficulté. L'avocat peut revenir derrière, mais ça on verra ça avec Lucia tout à l'heure, mm-hmm. Pour mettre en forme un éventuel accord.
Mm. Alors dans la situation là qu'on décrit, c'est un client qui demande à son avocat de l'assister à l'occasion d'une médiation familiale, donc c'est dans ce sens-là. Est-ce que ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous-même, avocat, vous suggériez une médiation familiale? Ça existe ça quand on est avocat ou...
Tout à fait. Ouais. L'avocat peut, à mon avis, est, je dirais pas le premier prescripteur, mais en tout cas un prescripteur de choix dans la médiation familiale, bien entendu. Hein. Il faut quand même sentir les situations, j'appelle situations du coup, dans lesquelles une médiation peut prendre sa place.
Alors justement,
on a des fois des surprises.
Hein. C'est quoi justement les situations où vous dites, non, il n'en est pas question, ça ne correspond pas, et là, à l'inverse, on va appeler la DAVEM, Lucia, et on va peut-être pouvoir travailler ensemble.
Déjà, des situations dans lesquelles la médiation est interdite, c'est les situations de violence. Oui. Ça, c'est dans les textes.
D'accord, voilà. Bon. Bien de le préciser.
Voilà, même si, il faut le préciser.
Voilà, même si une situation de violence, parfois, c'est définition...
C'est alors où est le curseur. C'est à l'appréciation de l'avocat. Mais s'il y a une situation de violence et s'il y a effectivement eu des coups et si on est aussi dans le cadre d'un dossier correctionnel connexe, là, c'est pas la peine d'insister. S'il y a aussi des situations de violence vis-à-vis d'un enfant à plus forte raison, des situations d'emprise psychologique aussi, c'est une question de discernement. Et ensuite, donc, en dehors de ces situations-là, bien évidemment, on peut tout à fait sentir nous-mêmes qu'il y a matière à rétablir une communication, ne serait-ce que entre parents. Hein, si la rupture est consommée, de toute façon, les ex-conjoints restent parents.
Hein. Oui, bien sûr.
On divorce pas en tant que parent, on divorce en tant que personne. Mais ça, c'est ce que je répète tout le temps. Enfin, ça devient un leitmotiv chez moi et vis-à-vis de mes clients. On ne divorce pas en tant que parent. Vous restez marié ou, en tout cas, vous restez en couple parental. Ça, c'est comme ça. Donc, il faut pouvoir parler de son enfant. Bon, dans ces situations-là, évidemment, il y a matière à médiation familiale.
Mais alors, ça doit être un peu compliqué parce que quand on est avocat, on a un client. On travaille pour lui et uniquement pour lui, et l'envoyer en médiation familiale, c'est quelque part le mettre sur un terrain neutre, alors que vous, c'est mon client, c'est mon terrain, je le défends lui, quoi. C'est il est moins sous votre protection ou il est plus à découvert.
Moi, je dirais pas qu'il est moins sous ma protection quand il commence à parler à l'autre personne. Alors je parlais des parents, mais ça peut être des gens des couples qui n'ont pas d'enfants, qui se séparent, qui ont des conflits sur des biens matériels, des biens immobiliers, etc. Ce que je veux dire, c'est que comme j'ai indiqué tout à l'heure, on n'est pas dressé au mordant, on n'est pas non plus. J'aime bien les images, hein, vous me pardonnerez, mais on n'est pas là pour faire se battre des montagnes. Mmh. Hein. Enfin, en tout cas, pas moi.
Oui.
Et donc, si un dossier, si une situation peut bien se passer et résulter en un accord qu'on présente au juge avec le sourire, je préfère. Personnellement, cette situation, et je pense qu'il n'y a pas que moi, il est magistrat aussi, et peut-être le confrère adverse aussi, à une situation où on va présenter les défauts de l'autre et les exacerber et envenimer la situation, c'est pas humainement, Ce n'est pas du tout ce vers quoi je tends.
Parce que c'est pas évident quand on est avocat, on est là pour faire gagner son client le maximum de gains. Je parle pas que d'argent évidemment. En médiation justement, il y a à l'inverse un petit peu de allez, je t'en redonne quoi. Je te un peu pour gagner à la fin, on peut s'accorder sur un peu moins de gains global.
Alors, je raisonne pas tellement en termes de gains, d'autant plus que, en ce qui me concerne, je parle pour moi, évidemment, mais je pense que cette opinion est partagée par beaucoup de confrères. On ne sort jamais grandi financièrement et ni humainement, ni financièrement d'une rupture. On sauve ce qu'on peut sauver et ce qui est précieux. Hein, c'est la relation à l'autre. Donc, vous voyez que je suis quand même très engagée.
Et très ouverte sur la médiation.
Donc, je ne suis pas là, encore une fois, pour faire gagner mon client. Et d'accord. surtout, en matière familiale, on parle bien de la matière familiale ici. En matière familiale, j'essaye d'emblée de leur ôter cette idée de la tête. Vous n'allez pas gagner et l'autre perdre. On n'est pas là pour mettre à mort.
Mais dans le métier d'avocat, alors vous, c'est un peu particulier, puisque vous avez cette affinité, vous avez passé le diplôme de médiatrice familiale. Donc, on peut comprendre que voilà, ce soit dans vos préoccupations. Mais les collègues, ils sont peut-être moins. La formation en elle-même, le métier, le vécu, fait qu'on est peut-être un peu moins dans votre disposition d'esprit. Non ?
Oui, alors on peut aborder l'aspect. L'aspect métier, au sens compétence de l'avocat. Et on s'aperçoit avec quelques années, voire décennies de pratique, que dans cette matière, il n'y a jamais un gagnant et un perdant. Jamais. Mmh. Des zones de gris à tous les étages. Et en plus, la matière familiale est extrêmement fluctuante. Donc une situation peut être une telle situation A à un moment donné, elle peut être A plus B à un autre moment, à un mois près. Peut être B ou C à un autre moment, et on est loin du A de la première situation. Et ça peut varier en 6 mois. C'est faire au mieux dans l'intérêt du client. Mais l'intérêt du client, c'est peut-être aussi un intérêt conjugué des deux. Des deux clients. Voilà, donc l'intérêt conjugué des deux clients, écoutez, ça passe par des accords, ça passe par des prises de conscience. On ne parle pas d'accord forcément immédiatement, mais des prises de conscience. Si, par exemple, je comprenais qu'il faut téléphoner aux parents, j'allais dire opposé à l'autre parent, pour lui faire un compte-rendu de la semaine et pour lui parler de notre enfant, si je peux comprendre que ça peut faire du bien à moi, aux parents, et à l'enfant, je le fais.
Ça marche en sens inverse, excusez-moi que je t'interrompe. Nous aussi, on a des connaissances limitées. Donc les avocats, évidemment, ils ont minimum 5 ans de licence plus master, plus le prépa, plus le barreau, plus ça. Nous, on n'a qu'un an et demi de droit. D'accord. Donc notre compétence est limitée. Je dis au début de chaque entretien d'information, je ne suis pas juriste, je ne suis pas psychologue, malgré qu'on était un petit peu formé, je suis plutôt un facilitateur de la parole. Si vous avez un avocat, n'hésitez pas, avant que vous rentrez en médiation, à vous enseigner concernant votre droit auprès de votre avocat. Comme ça, ils savent exactement qu'est-ce qu'il peut demander et comment on peut négocier. Donc, on part avec les informations et les personnes. Évidemment que ça se consulte avec les avocats et l'avocat, il a un rôle très important. On les conseille concernant leur droit et obligations en matière familiale, successorale, n'importe. Après, moi, je n'ai pas fait ça, mais j'ai d'autres collègues médiateurs qui envoient aux avocats des lettres en demandant si c'est possible. Maître, n'hésitez pas à parler avec votre cliente de répondre à l'appel à la médiation, si c'est une injonction, une double convocation. Donc, on s'appuie, on compte sur l'aide d'avocats et ils sont très, très sensibles est très ouverte à ça de parler et d'envoyer leurs clientes en médiation. Donc, tu vois, c'est au sens double, en autoroute avec double sens.
Et alors, vous avez parlé d'accord, Laurence Guédon, oui, en médiation familiale, le but, le plus souvent, c'est d'arriver à un accord, à ce qu'on s'accorde. éventuellement. Bon, cet accord, vous avez dit, oui, il peut être pas vraiment formel, une prise de conscience, et bon, très bien. Mais un avocat, ça sert aussi à mettre les choses en forme, à mettre les choses sur papier, comme on l'a déjà évoqué dans la médiation familiale, où effectivement, les intervenants, quand ils parviennent à échanger, à discuter, bon, ils se mettent d'accord, comme on dit. Vous, là, l'avocat, il peut amener, enfin, ça fait partie de ses compétences, amener cette compétence-là de rédiger cet accord avec les bons termes, les bons propos, c'est une pratique qui se fait ?
Ah oui, tout à fait. Alors, il peut y avoir un accord en médiation familiale qui peut ne pas être transcrit en matière juridique, nous présentons au juge des accords qui découlent des textes. On ne va pas présenter au juge un accord sur le fait que par exemple sur le contenu de la valise de l'enfant quand elle rejoint l'autre parent.
D'accord. Oui.
Hein,
voilà.
Là, le juge va nous dire non, mais ça c'est de l'autorité parentale pure. Hein. Moi, j'ai pas à rentrer dans ces détails-là. Mm-hmm. Hein. Sauf cas exceptionnel et motivation exceptionnelle, je vais pas rentrer moi non plus dans ces détails-là. Mais voilà. Donc un accord peut être scellé. J'aime pas le terme scellé, mais un accord peut être envisagé et mis sur pied. En médiation, qui n'est pas forcément retranscrit texto dans sa présentation au juge.
D'accord. Hein.
Un accord peut très bien être conclu sur le contenu de la valise, ce qui veut dire qu'il y a un accord sur nous, le passage de bras, c'est-à-dire le transfert de l'enfant d'un parent à l'autre dans de bonnes conditions. Mmh. Hein, c'est le principe des bonnes conditions que nous portons devant le juge.
Et des pratiques qui se développent, qui sont régulières ou qui sont encore rares, ces interventions-là en termes d'accords, de formalisés, de... Ça arrive souvent, ça ?
Oui, on a, de toute façon, à partir du moment où les parties, alors là je reprends la nomenclature juridique, les parties s'entendent, nous derrière on met en forme l'entente sur des termes très précis cette entente sur, encore une fois, l'exemple des enfants, sur le rythme des transferts des enfants, est-ce que c'est une résidence alternée, est-ce que c'est une résidence chez l'un des deux avec des périodes de vacances, de week-ends, etc., sur les horaires, etc., c'est nous qui faisons ça. Hein. Ils peuvent toujours y déroger, d'ailleurs, d'un commun accord, les parents, de toute façon, il faut le savoir, ça, les gens ne le savent pas, mais il faut le savoir. À partir du moment où ils s'entendent, on fait ce qu'on veut, c'est très plastique la matière familiale. Mais pour cette plasticité, il faut de la communication. Voilà. Et la communication, c'est la médiation.
Et tiens, d'ailleurs, on va peut-être regarder un cas particulier, un cas pratique avec toi, Lucia.
Oui, j'ai une question d'un téléspectateur, si je peux dire comme ça. Donc, une maman qui est séparée, d'accord. La résidence, ils ont un enfant ensemble. La résidence, elle est... alterné, et madame, elle veut partir rejoindre son conjoint à l'étranger, loin, quelques kilomètres. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle souhaite avoir demandé la résidence habituelle chez elle, et elle demande, est-ce que je peux faire ça ? Comment je dois procéder ?
Alors, juridiquement, de toute façon, elle doit demander effectivement le transfert. C'est un transfert de résidence, puisque on passe d'une résidence alternée dans ce cas-là, à une résidence fixée chez la maman, et éventuellement un droit de visite et d'hébergement au père ou à l'autre conjoint. Hein, maintenant, je suis.
c'est un père.
Voilà.
Dans ce cas.
Oui. Là, c'est un père. Bon, alors. Il faut donc saisir le juge. Il faut, pour que la résidence soit transférée chez la maman, le juge va raisonner en termes d'intérêt de l'enfant à résider exclusivement, un, chez sa maman et deux, à l'étranger. Donc, quitter complètement son mode de vie, son endroit, sa langue peut-être, raisonner en termes aussi d'âge de l'enfant, se poser la question et la question va se poser à tous de savoir si l'enfant veut être entendu par le juge, puisqu'il a le droit, hein, l'article 388.1 du Code civil lui permet de solliciter d'être entendu par le juge s'il est doué de discernement. Mmh. Hein. Doué de discernement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Là, le texte ne prévoit pas l'âge de 12 ans, etc. Il faut que l'enfant soit suffisamment discernant pour avoir la capacité, l'idée de dire « moi, je veux que le juge entende ma version des faits ».
Bon, bah, bon, moi, à mon âge, ça ne m'est pas encore arrivé, donc je ne suis pas encore...
C'est pour ça qu'on parle de discernement et qu'on ouais. l'encadre pas dans un âge précis parce que chaque enfant a une évolution différente.
Ouais.
Voilà, donc il y a cette possibilité là aussi. Et pour convaincre, alors je ne connais pas le père dans cette configuration, dans cette situation, mais pour préparer le terrain. Parce qu'on ne peut pas prendre par surprise l'autre parent. Mmh. Hein. On n'a pas le droit. Alors là, surtout pas. On enfreint complètement l'autorité parentale, les principes de l'autorité parentale. Si la maman prend ses bagages
et part
avec l'enfant, alors là, de toute façon, c'est simple, c'est plainte et on récupère
voilà,
l'enfant.
Commissariat, hein. Et voilà. Oui. Hein. Mmh.
Voilà. Donc, c'est terminé. Non, parce que ça dépend du pays où elle va.
Parfois, ça peut être compliqué. Parfois, ça peut être un peu compliqué, malheureusement. Oui, oui.
Mais bon, là, ce que je veux dire, on sort de la légalité.
Mmh, bien sûr.
Bon, donc, pour rester dans la légalité, il faut préparer le terrain, avertir l'autre parent. Et évidemment, le mieux, bien évidemment, c'est d'obtenir, non pas l'autorisation du juge, mais le transfert de la résidence de façon à pouvoir fixer sa résidence où on veut. Parce que le parent fixe sa résidence où il veut.
Oui,
hein,
oui,
une fois qu'il a la résidence de l'enfant avec lui,
il a le droit d'habiter.
Voilà, on la fixe où on veut. Mmh. Hein. Mais encore une fois, donc l'invariant,
ouais.
c'est l'intérêt de l'enfant.
D'accord, oui, ce qui est au centre, évidemment.
Et si on a des grands-parents paternels qui sont coupés de ces liens parce que la mère, elle déménage à kilomètre.
Alors, les grands-parents peuvent exercer une action qui leur est complètement dévolue hein, par le Code civil. Mais c'est une action qui leur permettra de se voir allouer des droits de communication avec l'enfant, à minima. Alors par contre, après, comment on fait pour que ces droits soient respectés? C'est un problème, effectivement. Mais ils peuvent tout à fait avoir un droit au moins épistolaire ou de communication téléphonique. Si on reprend l'exemple là d'une fixation de résidence éloignée, hein, voire dans un pays étranger. Et ils peuvent tout à fait solliciter un droit de visite et d'hébergement pour les vacances, pour que l'enfant puisse revenir en France. On prend toujours ce cas. À l'occasion de vacances chez eux, si le père n'est pas en capacité, lui, de les héberger. Parce que là, il y a quand même un père dans l'histoire. Mmh. Normalement, c'est au père, on parle de grands-parents paternels, hein,
oui,
c'est au père de solliciter, lui, des plages de vacances. Hein. On ne va pas parler de week-end, là, parce que ça risque d'être un peu compliqué dans ce cas de figure. Mais des plages de vacances, je dirais même étendues, puisque l'enfant réside loin. Donc, pourquoi pas toutes les vacances scolaires. En général, on les limite à toutes les vacances scolaires, sauf Noël, qui est une période un peu particulière, et les vacances d'été, parce que 2 mois, ce serait peut-être un peu long, sauf si la maman part en Australie.
Voilà. Elle part en Égypte.
D'accord. Bon, enfin bon, c'est moins loin. C'est moins loin.
C'est un peu moins loin.
Voilà. Donc, alors là, je ne sais pas ce qui a trait au père. On part du principe que les grands-parents seraient coupés de tout lien, y compris via le père. Hein. Mmh. Si le père est toujours exerçant son droit, à ce moment-là, les grands-parents n'ont pas besoin d'exercer un droit, puisqu'ils savent qu'ils vont voir leur petit-fils, si c'est un fils, je ne sais pas, voir leur petit-fils quand il viendra voir son père. Donc on parle du droit des grands-parents quand le père n'est pas en capacité de recevoir l'enfant ou s'en fiche ou a disparu du tableau. À ce moment-là, ils peuvent se substituer et demander un droit de visite et d'hébergement. Après, je ne connais pas le dossier.
Ah oui, chaque cas est particulier.
J'ai retenu une chose, préparer le terrain. Et ici, ça peut intervenir bien la médiation entre les deux parents pour préparer la coparentalité à la distance, si on veut. Et on travaille tout ça en médiation.
J'avais tout à fait ça en tête. Hein. Quand j'ai dit préparer le terrain, c'est
ça,
c'est tout à fait ça. Donc c'est en amont de l'action.
Allez, on arrive bientôt au terme de cette émission, l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez. Un petit mot encore, comme tout de même, Laurence Guédon. Je rappelle que vous êtes bâtonnier du barreau de l'Aveyron, avocate, hein, évidemment, et aussi médiatrice familiale, diplômée d'État, tout comme Lucia Vintila. Donc, on a bien vu qu'il y avait une place de l'avocat dans la médiation, que vous travaillez ensemble de mieux en mieux, et voilà, dans l'intérêt, évidemment, des familles, des personnes. Vous, en plus, qui êtes, oui, qui avez les deux, connaissez les deux aspects de la chose. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme évolution entre peut-être le monde des avocats et celui de la médiation familiale? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour que ce soit encore mieux dans les prochains mois, les prochaines années, au profit des personnes, hein, évidemment, peut-être aussi au profit des avocats ou des médiateurs ou médiatrices familiales diplômées d'État? Ça peut être quoi l'évolution sympa?
L'évolution sympa, c'est qu'il y ait de plus en plus d'avocats qui soient également formés à la médiation. Qui puisse intervenir en tant que médiateur.
Ouais, ça, vous sentez que ça alors vient, vous, c'est un cas vient. Spécial, mais ouais. Ça vous plaît ou pas, les avocats, la médiation familiale?
Oui, tout à fait, faut pas en avoir peur.
D'accord, bien sûr.
Non, alors, il y a de plus en plus de confrères qui se forment à la médiation générale, qui est un diplôme universitaire, donc c'est diplôme de médiateur, qui interviennent, qui sont désignés dans le cadre de médiation générale, notamment au tribunal. Ici, on a des consoeurs d'ailleurs de Toulouse qui sont formés à la médiation, qui ont le diplôme universitaire, donc DU, et qui interviennent dans des médiations autres que familiales, des médiateurs familiaux tout à fait. Alors, il faut trouver le temps, toujours ce facteur en tant que médiateur familial et en tant qu'avocat, mais en matière conventionnelle, tu l'as rappelé, Lucia, tout à l'heure, qu'il y a une possibilité d'intervenir en matière conventionnelle, c'est-à-dire hors injonction ou incitation du juge.
Ouais.
Donc les personnes se rendent en médiation de leur propre chef. Et un médiateur familial peut tout à fait, enfin un avocat peut tout à fait intervenir en tant que médiateur familial dans ce contexte.
On l'a vu dans cette émission.
Oui, tout à fait. Encore une fois, il faut voir la fibre.
On
l'a pas tous.
On l'a ou on l'a pas.
Voilà, bon, c'est comme ça, mais. Oui,
vous l'avez.
De plus en plus. Oui, je suis tombée dedans. mais il faut avoir la fibre. Mais je pense que de plus en plus, oui, c'est pas incompatible. Mais par contre, on ne peut pas être avocat. Et médiateur dans le même dossier, on est bien d'accord.
Ah bah oui, là on est bien d'accord. Tiens, dernière question, j'en profite, puisque voilà, le bâtonnier du barreau de l'Aveyron avec moi dans les studios, vous venez tout juste d'être élu il y a quelques semaines, début d'année 2024, Laurence. Donc c'est un mandat de 2 ans, c'est ça?
C'est ça.
Qui est reconductible ou pas?
Alors, non.
Ah, c'est un coup de
dent. On peut être bâtonnier plusieurs fois dans sa vie, mais
pas deux fois de suite.
Non.
Bon.
Pas deux fois de suite.
Alors, quand même, une petite question un peu d'actualité. C'est quoi vos gros dossiers, là, 2020? Parce qu'on a vu les grèves d'avocats.
En tant que bâtonnier?
Ouais. On les voit plus, les grèves d'avocats, en ce moment. Donc, tout va bien. C'est quoi les dossiers 2024? Soit pour l'avocat français, soit pour l'avocat aveyronnais.
Tout va très bien. Justement, la médiation, tout ce qui est mode amiable de règlement des litiges. C'est ce qu'on appelle les mardes.
Les quoi?
MARD.
D'accord.
Des différends, en fait. J'ai dit litige, mais c'est des différends. Mm-hmm. Mode amiable de règlement des différends, mardes. Voilà. Et je pensais au MARL, mode amiable de règlement des litiges, qui est aussi un grand thème qui revient via le ministère de la Justice.
Ouais, parce que quand vous dites ça, c'est on vous pousse, c'est le ministère qui vous pousse, c'est pas le corps des avocats en soi qui se dit allez, on va tous s'arranger à l'amiable.
Oui, voilà. On peut peut-être déceler une influence anglo-saxonne dans ce type de règlement. Et puis il y a aussi le fait que on a un problème en ce moment très très aigu dans le milieu judiciaire, qui est un déficit de magistrats en termes de nombre. Pour vous donner une idée. À la fin du 19e siècle, je vous parle en termes de proportion, à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire
1880,
1900, 6000 avocats, 8000 magistrats, peut-être 7000, allez. Aujourd'hui, 70 000 avocats, 8000 magistrats.
Ah oui, il y a à peine plus de magistrats qu'il y a plus de 100 ans.
Voilà, c'est QFD.
Ah oui, donc on comprend pourquoi ça coince et qu'il y ait des piles de dossiers au tribunal. D'accord. Donc pour vous, avocate et donc bâtonnier de l'Aveyron, le problème c'est pas les avocats, c'est le reste de la justice, si je comprends bien.
Faut bien trouver un problème quelque part. Oui, alors on nous dit, on peut avoir l'idée de dire que c'est les avocats qui alimentent d'une façon pléthorique les tribunaux, puisqu'on est beaucoup plus nombreux et donc pour nous vivre, il faut bien qu'on alimente.
Bah,
bon,
oui,
voilà,
oui.
Soit je m'étendrai pas, mm-hmm. Mais on peut très bien aussi nous, du coup, si c'est vraiment ça le problème, hein, je pense qu'il y a un peu des deux. Hein, on pourrait aussi augmenter le nombre de magistrats, mais bon, ça c'est ma façon de voir les choses. On peut aussi voir le travail de l'avocat en amont de la saisine du tribunal dans un mode amiable de règlement, hein, des différends, hein, et la médiation en est un. Il y en a d'autres, hein, il y a la conciliation. On a une obligation de conciliation aussi maintenant, depuis le mois d'octobre.
Ah bon?
Oui, d'entrer en conciliation avant de saisir le tribunal pour certains types de, juridictions et de litiges.
Et par exemple, des litiges qui peuvent être liés à de la médiation familiale ou
Non, pas en non. médiation ouais, familiale. Ouais. Alors, ça va prendre un petit peu de temps si je m'étends là-dessus, mais il y a eu une tentative d'instituer l'obligation de médiation avant de saisir le juge aux affaires familiales,
oui.
pour des conflits récurrents.
Ouais.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Ça qui reviennent
voilà, régulièrement. Alors, j'adore les acronymes, ça s'appelle la TMFPO, Tentative voilà. de médiation familiale préalable obligatoire.
TMFPO, j'ai jamais rien compris. Oui.
Tentative de médiation familiale, je traduis. Merci. Tentative de médiation familiale préalable obligatoire, ouais. mmh. voilà, qui a été instituée dans certaines juridictions pilotes. En fait, on est obligé de montrer qu'on est allé au moins s'informer sur ce qu'est la médiation
ouais.
avant de saisir le JAF, le juge aux affaires familiales, dans certains cas, c'est-à-dire les après-divorces. Hein,
ouais.
ou bien les problèmes d'autorité parentale, c'est-à-dire les conjoints qui n'étaient pas mariés, qui se séparent et qui doivent s'organiser autour des enfants.
Mmh.
Voilà. Alors, ça marche dans 11 juridictions, je ne sais plus ce qu'il y a. Ça continue. Ça a été tendu, non, je sais plus.
Ça a commencé en 2017. Ouais. Ils ont dit qu'ils font expérimental ouais. quelques années et que veut élargir, mais malheureusement, ils sont un peu en stand-by.
Voilà. Moi, j'avais vu des rapports en 2021 qui étaient assez mitigés. Personnellement, je suis très optimiste. J'étais beaucoup plus optimiste que les rapporteurs eux-mêmes parce que il y avait des bons résultats. Dans 30% des cas, il y avait eu un accord.
D'accord.
Oui, même partiel.
C'est toujours ça.
Moi, je trouve que c'est bien.
Bah, oui,
c'est bien.
Toujours.
Un sur trois, je trouve que c'est drôlement bien.
Ouais.
Et les rapporteurs, qui étaient des médiateurs, des sociologues, il y a eu deux rapports mm-hmm. hein, que j'ai lus avec beaucoup d'attention. C'était en 2021 ou 22, je crois, 22. Je sais plus. Enfin bon, bref. Ils étaient un peu déçus du résultat. Non, ça peut pas marcher dans 100% des cas. Hein.
Mm, oui,
mais au moins. Bah,
30%,
moins.
C'est ouais. toujours ça qui évite ouais. d'aller plus loin dans le conflit. Et...
Ouais. Mais au moins, je pense que l'idée de la médiation, mm-hmm. le principe de la communication est planté. Hein, et la petite graine, moi, je lui fais confiance. Voilà.
Oui, il faut que le temps, parce qu'on parle tout le temps de temporalité en médiation
voilà.
et partout.
Il
le
faut temps, un temps de maturation et on voit souvent des clients, des médias, des personnes... qui ont tenté, ça n'a pas marché, mais qui reviennent parce qu'ils ont l'idée de
D'accord.
revenir spontanément vers le médiateur, parce que finalement, c'est quelque chose qui a fait son chemin, une idée qui a fait son chemin. Voilà.
Bah voilà. Les grandes idées avancent.
Rendez-vous dans 10
Alors,
ans.
Rita, on espère qu'on sera là. Merci beaucoup, en tous les cas, Laurence Guédon, d'être venue dans nos studios. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez appris dans cette émission, hein, la place des avocats en médiation. Laurence Guédon, bâtonnier du barreau de l'Aveyron, à votre carte elle-même. Vous exercez à Rodez, Laurence?
Oui.
Ouais, okay. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver prochainement, peut-être au palais de justice ou ailleurs, pour d'autres aventures. Lucia, vous allez la croiser, vous croisez de temps en temps, puisqu'on rappelle que la DAVEM de l'Aveyron, bon, c'est des locaux, hein, rue Ségui, dans le centre-ville de Rodez, mais c'est aussi des permanences au tribunal de Rodez, évidemment, et de façon très, très régulière. Donc, vous avez eu l'occasion de vous croiser. Merci, Lucia, d'avoir invité Laurence. Dans
Avec
cette émission.
Plaisir et merci beaucoup pour tout ce savoir qu'on
ouais.
a partagé.
Ouais. On se quitte en musique comme d'hab avec ta petite sélection, Lucia.
Oh ben, on se quitte avec Queen, We Are the Champions.
Ah ouais, ah bah écoute, si tu le dis. Merci Laurence.
Merci David, merci Lucia.
Merci Lucia.
Merci à tous les deux, merci.
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through.
And I need to go on, 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 on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before.